dernier rêve avant la nuit? Karine Delphini.
Heureusement qu'il y a les femmes, toutes les femmes. Une nouvelle femme, vois-tu, c'est comme une fenêtre qu'on ouvre. Le mystère, le large, c'est doux comme de marcher dans la nuit. C'est une phrase tirée des Voyageurs de l'Impérial d'Aragon. Bonsoir, bonsoir. Des femmes, des voyages, c'est de ça dont nous rêverons ce soir. Je pourrais aussi ajouter le besoin absolu de se sentir vivant. Ça peut passer par l'amour, la découverte du monde ou d'autres choses. Vibrer, c'est ce que recherchent les personnages de nos histoires. Samuel Morier-Genoux m'accompagne en régie. Des chansons ont été choisies par Yves Ellen. Et c'est Da Silva pour commencer.
Tu reviens dans le parc, je ne t'attendais plus. Tu reviens sur le lac à la fin de l'été. Tu embarques sous mes yeux, on nous trouble. Rien ne cède, rien ne coule depuis toutes ces années. Je préfère les rivières aux étangs du saline. La violence des courants est le lit qui déborde. J'ai passé tant d'années dans l'ombre à t'aimer. Si je tremble, c'est qu'aujourd'hui, je vais jeter au vent tes plus belles lettres, je jetterai au belle phrase que tu ailles au diable. Je connais trop les déserts que tu portes. Aller au vent tes plus belles lettres, je jetterai au vent tes plus belles phrases que tu ailles au diable. Je connais trop les déserts. Je n'attendais plus rien des jours avec toi. Si l'amour nous quitte sans jamais nous saluer, nous n'avons jamais su l'embrasser. Et ce ciel nous oublie quand il n'y a plus de jour. Et ce ciel nous oublie quand il n'y a plus de nuit. Que deviennent nos prières et les promesses passées? Si je tremble, c'est qu'aujourd'hui, je vais jeter au vent tes plus belles lettres, je jetterai au belle phrase que tu ailles au diable. Je connais trop les déserts que tu portes. Aller au vent tes plus belles lettres, je jetterai au vent tes plus belles phrases que tu ailles au diable. Je connais trop les déserts que tu portes.
Plus belle lettre de Da Silva et celle aussi de Joseph, grand voyageur, adressée à une femme. Nous allons partir pour l'Amérique du Sud, précisément dans la capitale d'Uruguay, Montevideo. C'est là que l'écrivain Cédric Gras a imaginé ce récit. Il est tiré de son livre « Le cœur et les confins » aux éditions Phébus. Un matin que je gisais dans une grande bâtisse du port de Montevideo, morfondu de n'avoir rien de valable à quoi consacrer ma journée, mon regard repéra, glissé derrière une lame de peinture, un pli. Je me levai dans un grincement de ressort, tendais le bras, vers ce lambeau de mur écaillé. Il s'agissait d'une enveloppe blanche, dont personne n'avait encore jamais léché la colle infecte qui scelle parfois les courriers et qui associe au charme épistolaire un arrière-goût amer. Et sur l'enveloppe était mentionné « Para Paola ». J'en sortis une page ordinaire, couverte d'une graphie appliquée. L'écriture de quelqu'un qui recopie un texte depuis un brouillon. Je passais la matinée, alors que Montevideo s'animait et que le soleil pâle de l'hiver austral enluminait le front de mer, à traduire le message d'un anonyme à une femme qui aurait pu être celle de tous les voyageurs. Paola. Oh, bien sûr, j'ai connu des femmes. À Shanghai, à Cotonou, à Riga, on se disait « marions-nous ». On se connaissait depuis le coucher du soleil. On ne convoquerait ni foule ni bombance. Et au sujet du train qui m'attendait le lendemain, elle disait « je t'attendrai ». C'était des précipités d'amour en réaction à une chimie irrationnelle. Et finalement, ce fut plutôt rare. Et puis cruel. Les femmes s'enfuient toutes à l'heure des adieux, dans l'espoir, je crois, qu'on les retienne. L'amour supporte mal les distances que l'on prend avec lui. La liberté m'a toujours imposé des œillères. J'ai fait inlassablement la sourde oreille aux sirènes. J'ai évité de couler ma barque d'exil. N'a-t-on pas trop souvent la tentation de s'accommoder des charmes suffisants d'un hasard de la route, renonçant trop tôt aux illusions de nos existences ? Il y avait cette fuite en moi, comme une issue permanente. C'est le sourire aux lèvres que j'embrassais les horizons rebelles. « Liberté, me disais-je, est un mot brimé par trop de devoirs. » Narquois, je foulais la terre et toisais le ciel. De mes nids d'aigle, je regardais un univers que j'avais tourné en dérision. Tout voir et tout connaître, une devise sur une bannière de nuages. J'avisais l'horizon et traînais dans la douleur ma jeune solitude. Pourtant, comme j'ai eu froid, chaque soir de solitude, drapé dans l'étendard trop grand de ma liberté. Aux aurores, l'ironie et très vite partout, le silence et l'ennui, la peur du naufrage et l'esquisse d'une folie. Liberté, ma liberté, cette longue toge azur dans laquelle je me prenais les pieds, comme quand enfant je trébuchais sur les pierres des sentiers. 20 ans, il y a déjà trop longtemps, et le lointain comme unique quotidien. Une carotte, voilà ce que sont ces rêves qui nous font avancer sans que jamais nous les vivions pleinement, l'âne que je suis. Paola, vous ne connaissez pas ces itinéraires où l'espace s'efface devant le temps, où les grains des sabliers coulent plus vite que ne passent ceux des déserts, où la crainte n'est pas tant la somme des kilomètres à parcourir que le nombre infime de jours encore à notre disposition. L'espace serait une bagatelle si nous n'étions sous les ordres du temps. Je dompterais l'infini si l'on m'offrait l'éternité. Mais c'est le calendrier qui me désespère, plutôt que les distances qui s'étalent sur la carte. Le but géographique est une chimère. La Terre n'est pas à l'échelle de la vie. L'essence de l'espace est d'être sans fin quand celle du temps est d'être comptée. Paola, vous savez peut-être en revanche cela, la vie s'emballe au compte des années qui restent beaucoup plus sûrement qu'à celui de celles écoulées. Elle est ce voyageur attardé sur un sentier qui s'alarme soudain de la nuit qui tombe. Ne serait-il pas temps de se remettre en marche pour en finir avec les étapes qui s'éternisent ? Il m'a fallu des années pour comprendre la vanité du voyage et renverser de son piédestal la statue érigée à l'errance qui trônait dans mon esprit vagabond. Les jours qui s'enfuient viennent doucement à bout d'une envie surgie d'on ne sait où, de la perspective vacillante des routes qui n'en finissent jamais. Tous, nous abandonnons nos idéaux un jour face au décompte inexorable et devant le mirage qu'ils représentaient. Et ce même s'ils reviendront nourrir nos frustrations jusqu'à notre trépas. Paola, j'aspire à une autre existence. Hier, nous étions ensemble dans la cour arrière de votre boutique. Les pavés étaient jonchés d'un tapis automnal. Nous avons pris un café chito sous un ciel pur et intense, au son de la guitare de l'un de vos vieux parents. Est-ce cette saison, chérie, qui me renvoie aux sources de ma propre vie ? Sont-ce ces parfums d'Europe, la langueur de vos chants, notre communauté d'esprit qui me ramène cette fois au seuil de mon pays ? Tout me revient de l'amour et la modernité glisse sur mon cœur. Je ne sors pas de l'âge de pierre, mais j'aimais tant les billets doux, les rendez-vous à l'angle des vieilles pierres, les promesses tenues, les serments gravés, les rires un peu fous et la gravité. Il me plaît d'écrire des lettres et de regarder le ciel pour de vrai. J'aime les nuages, les longs baisers, vos mains. Nous avons conversé au téléphone. Celui du vieil hôtel où j'ai élu domicile est une vieille chose dont le combiné est relié par un fil. J'ai arpenté, tout le temps de notre délicieux échange, le demi-cercle qu'une laisse permet à un chien de dessiner devant sa niche. J'étais à vous. Paola, il n'y a pas de plus définitifs adieux que ceux que l'on scelle avec son passé. Et c'est ce parfum qui flotte qu'on appelle nostalgie. Mais c'est la certitude d'un inéluctable lendemain que l'on appelle l'avenir. C'est sans doute qu'il faut avoir parcouru suffisamment de route pour s'accepter d'un autre âge. C'est certainement qu'il faut avoir bien vécu pour mourir en paix. Quel cheminement sans contrainte temporelle. Il m'a fallu tous ces voyages pour vous aimer sereinement. Souvent je vous contemple, me prends à penser que vous voir chaque jour suffirait au bonheur. Paola, vous m'avez beaucoup reproché ma nature voyageuse. Je l'enterrerai au fond de notre jardin, je la noierai dans vos yeux, je l'étoufferai dans nos étreintes. C'est une petite mort, mais avec vous je ressusciterai. Seule l'éternité est à l'échelle de l'univers. Joseph. Je repliais la lettre avec mille précautions. L'auteur avait, lui, plié bagage. Pourquoi n'avait-il pas fait parvenir ces lignes à celle pour laquelle il se disait prêt à renoncer au monde ? S'était-il soudain senti incapable d'assumer ses mots ? Avait-il été pour lui plus aisé de repartir à travers son empire que de conquérir ici un royaume minable ? S'était-il dit « à quoi bon ?» en remettant son sac sur ses épaules ? Je replaçais le pli derrière la fragile écaille de peinture afin qu'il fût utile à d'autres locataires et parce que j'ignorais qu'en faire. Et quant à moi, je quittais enfin ma chambre et dévalais le grand escalier en bois qui menait à la réception. Et l'hôtelier, en m'apercevant, s'exclama « Ah, ben voici justement la personne qui a pris sa place. Votre ami a quitté les lieux hier. Je suis désolée, señorita. » Et je vis les sourcils d'une femme se froncer imperceptiblement, tandis que des larmes naissaient au coin de ses yeux.
Queria ser o grande herói das estradas. Tudo o que você queria ser. Sei um segredo. Você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais. O anel de sapata, tudo o que você devia ser. Sem medo. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser.
L'évasion avec Milton Nascimento et sa chanson « Tudo que voce podia ser ». Mais que se passe-t-il sur nos routes à nous ?
Infotrafic, RTS.
Eh bien, sur l'autoroute Vevey-Martigny, un véhicule en panne bloque toujours la voie de droite dans la zone de chantier située entre le tunnel de Glion et Villeneuve en direction du Valais. Berry sur la première, Mademoiselle. Oh, mais c'est d'une femme mariée dont il est tombé fou d'amour le personnage du livre Nour, d'Arnaud Rickner, édition du Rouergue. Et ce personnage qui raconte cette passion est lui aussi marié. Ces deux-là ne sont pas dans la trahison, du moins ils peuvent pas le ressentir ainsi, tant ce qu'ils vivent est un éblouissement, un embrasement, une évidence. Il est en voyage dans une ville d'Orient pour son travail et c'est là qu'il la rencontre. Alors les passages que j'ai choisis ne résument pas toute leur histoire, c'est juste quelques extraits qui disent la mystique alchimie de la passion, l'urgence de s'y abandonner. Et ça commence avec ces mots de Louis Aragon. Il faut beaucoup de scepticisme pour se satisfaire de ce qui est. Les amants de l'absolu ne rejettent ce qui est que par une croyance éperdue en ce qui n'est peut-être pas. Tu ne sais rien, tu ne comprends rien, tu ne veux pas comprendre, jamais. Tu ne veux pas savoir comment ça a pu arriver, tu voulais que ça arrive. Depuis toujours, tu attendais. Un amour impossible, un amour insupportable, un amour de roman, encore un amour. Et il est là, qui menace tout, de tout emporter, ta vie, celle de ceux que tu aimes, que tu ne sais plus aimer et que tu aimes pourtant plus que tout, mais peut-être pas plus que cet autre amour tant rêvé au point d'avoir lieu ici, dans cette ville. Tu ne sais rien, tu ne veux rien savoir, plus rien, de rien. Une fois son corps rentré dans ton histoire, une fois sa présence imposée à ta propre vie, plus rien n'a vraiment existé. Comme si une porte, jusqu'ici insoupçonnée, s'était ouverte, puis refermée sur vous deux, sur cet échange de vos peaux, sur cette circulation de vos humeurs. Alors même qu'elle portait en elle toute la séduction du monde dont tu l'avais tirée, ce monde s'était évanoui dans son sillage, et dans celui qu'à présent, toi aussi, tu laissais derrière toi. Une fracture dans le temps, une faille, dans le mur de ta chambre, qui aurait donné accès à une autre salle inconnue et dont tu n'aurais pu désormais sortir, faute d'avoir jamais pensé te retourner. Dans cette salle, ouverte sous tes pas, elle se met nue. Tu la regardes d'abord longuement, et elle, debout devant toi, ne bouge pas. Tu ne dis rien et elle ne dit rien à celui qui la regarde. Tu la sens qui te désire et qui pourtant résiste doucement à ce désir qui voudrait la submerger d'un coup mais qu'elle concentre dans ton regard. Elle est tout entière dans ton regard sur son corps que tu ne veux pas encore toucher, seulement regarder, seulement aimer de loin. Et puis tu la touches. C'est d'abord ta main sur sa peau, aussi longuement que ton regard, posée sur sa peau sans bouger. Puis ta main la quitte, un instant suspendue dans l'air entre vous deux. À ton tour la regardant, tu te déshabilles lentement, entre gêne et insupportable désir, tandis que c'est son tour de regarder tomber un à un les vêtements maladroits, bêtements quotidiens, bouleversants, qui font tas à présent devant toi. Vous respirez l'un et l'autre sans un bruit, sans un souffle, sans un mouvement, dans cette solitude partagée. Peut-être que ça dure des heures, peut-être des jours. Et puis tu la prends dans ta bouche, tu prends ses fesses dans tes mains. Elle est tout entière en toi, aspirée, traversée par tes lèvres, son corps tendu sur le tien, ses mains sur tes chevilles, son corps tendu prêt à céder sous cette violence de ta bouche. Elle crie que ce n'est pas croyable. Elle crie tant que tu en ris, incrédule. Avant même que tu ne la touches, tu la sentais prête à crier de joie et de jouissance, mais à présent, elle n'en peut plus te crier. Tu lui dis de ne pas le faire, de ne pas crier, que ce n'est pas nécessaire, comme si tu croyais qu'elle mentait, qu'elle criait comme une femme vendue qui paie en cri l'argent qu'on lui a donné. Mais ce n'est pas ça. Ces cris à elle n'ont rien à voir avec ceux de ces femmes. Aussi incroyables qu'ils te paraissent, ces cris à elle ne mentent pas, ils disent simplement la jouissance. La jouissance si grande qu'on voudrait en mourir, la jouissance toute simple. Tu la partages autant qu'on puisse partager la jouissance de l'autre, comme sa souffrance. Autant qu'on puisse partager la solitude, la jouissance. Et puis elle se repose d'avoir tant crié. Elle se tait. On dirait qu'elle dort à présent. Mais elle ne dort pas. Ses yeux te regardent. Peut-être est-ce alors que tu lui as donné ce nom. Ce nom qui en dit trop ou pas assez. Ce nom dans une autre langue qui n'est ni la sienne ni la tienne. Ce nom que tu lui as choisi. Nour. Nour, en arabe, cela veut dire lumière. Mais en allemand, cela veut dire seulement. Seulement quoi ? Tu ne sais pas, seulement elle, seulement son corps enfermé dans cette chambre, ou toi enfermé dans son corps. Nour, seulement ça, tout, rien, seulement maintenant. Et pour combien de temps ? C'est peut-être au cours d'un rêve que tu as décidé de ne jamais la quitter, de ne jamais t'éloigner tout à fait d'elle. Pour cela, de ne jamais t'abandonner tout à fait à elle, de conserver entre elle et toi cette distance nécessaire à l'inaccomplissement, à l'inachèvement de ton amour pour elle, de soustraire cet amour à son achèvement et à la mort. Tu la rêves, oui, éternelle, et toi avec. Tu la rêves n'être plus qu'un cri, et tu rêves que ce cri pourrait être toute ta vie. Dans le silence de toutes les chambres futures où ta vie, inévitablement, te mènera. Tu demandes où vous allez. Elle dit « Voir des pierres que j'aime. » Des pierres, c'est tout. Tu veux bien ? Près de la montagne, on marchera un peu. Tu avances sans honte, mettant tes pas dans les pas de cette femme, sans chercher à rien contrôler, comme quand tu t'abandonnais dans ses bras au rythme de son corps. Et tu t'aperçois que quoi que tu fasses à présent, c'est elle qui te mène droit devant parmi les pierres. Auprès d'elle, tu es de nouveau cet enfant sans crainte de pouvoir l'être, librement, joyeusement. Entre toi et toi, il n'y a plus cette distance infranchissable que ta vie avait mise. Entre toi et toi, il y a cette femme. Il y a cette femme qui te conduit et qui te réunit. Une femme inconnue et que tu découvres à chaque pas nouveau. Une femme presque muette, qui parle difficilement ta langue et qui t'apprend à te taire. Et tu devines confusément que si elle t'a amené ici, dans ce presque désert, c'est pour t'apprendre l'importance de ce silence entre vous, de ce silence entre ses mots maladroits et les tiens. Pour t'apprendre cela et d'autres choses que tu pressens et laisses venir. Comme si pour parvenir à ce point exact où elle veut t'emmener, il te fallait d'abord tout laisser. Comme si les jours d'avant, même avec elle, même à ses côtés, même dans son corps, n'avaient été que le commencement d'un quelque chose plus incompréhensible encore, plus impossible que tout ce que tu avais imaginé. Donc tu avances. Tu suis cette femme dans la lumière de ce pays incroyable. Tu la suis sans crainte et avec joie. Devant vous, c'est un amoncellement de roches qui s'élève insensiblement. Au début, tu ne vois rien. Mais comme elle ne bouge pas, tu regardes plus attentivement, comme pour comprendre ce qu'il a saisi et devrais toi aussi arrêter ton regard. Et il ne fait rien pour t'aider. Tu t'appliques comme un enfant. Tu t'appliques si bien que tu finis par discerner ce qui donne à ces rochers leur apparence étrange, à la fois sauvage et familière. Ce n'est pas leur forme qui t'attire, tandis que tu te laisses faire par eux. C'est comme une ombre qui se répand par tâche, par plaque, par paquet. Tu t'approches et tout à coup tu aperçois les dessins qui y sont gravés, des dessins par centaines, par milliers. À peine des dessins, des points noirs, juxtaposés et qui forment des corps à perte de vue, des corps partout, sur toutes les faces, aux limites les plus extrêmes de la pierre. D'abord, tu vois des animaux de toutes sortes, de toutes tailles, venus du fond des âges, sortis de quel imaginaire ? Tu ne comprends pas comment, dans ce nulle part où elle t'a conduit, peut vivre une telle population insensée. Car sa vie, c'est de la pierre qui vit, qui bouge, qui court, qui rampe. Elle te parle, tu comprends que ce sont des hommes qui sont venus déposer ici ce temps immémorial qui les avait portés. Ils l'ont posé là, à même la roche, dessinant non leurs pieds ou leurs mains comme d'autres avant ou après eux l'avaient fait, mais laissant leurs traces les plus intimes, leurs visions les plus folles, les plus joyeuses aussi, leurs cauchemars les plus délicieux, rêves gravés à fleurs de pierre. Et comme tu restes immobile devant ce troupeau incroyable, elle te prend la main, te force à marcher encore, t'attire vers un amoncellement plus élevé que les autres, une ombre plus présente, bouche grande ouverte où tu pénètres à sa suite. Elle tend le doigt, elle désigne deux trous dans la pierre, étrangement à nu, comme l'empreinte de deux corps sur la roche, côte à côte. On y devinerait presque la forme d'une tête ou la trace d'un bassin. C'est une couche, une tombe. Pas une tombe, une chambre. Pour habiter la mort, une chambre pour l'amour. Ce n'est plus une grotte au milieu du désert, c'est un ventre, la matrice où elle devait te conduire, où il était écrit qu'elle, cette femme, te conduirait avant que tu reviennes dans le temps de ta vie. Combien de temps alors à ne rien dire, à ne plus bouger? Combien de temps ici, allongé? Combien de temps à écraser son ventre, ses seins, dans l'affaissement de tous tes muscles, à tenir ses fesses entre tes mains sans qu'aucun souffle ne sorte plus ni de sa bouche ni de la tienne. Combien de temps à vouloir que tout recommence, que tout s'arrête. Tu ne bouges plus, tu es mort, tu as trouvé la pyramide où enfouir à jamais ton amour. Le tombeau ou te retirer avec elle à l'intérieur de toi-même. La chambre secrète où bercer ta solitude contre son corps à elle. C'est ici que tu resteras, même si ton corps continuera d'aller. Tu t'enfermes pour toujours dans cette chambre.
Recabe el alma. never know her name. But I write it on a letter, sending from Pompeii. Gonna put it in a box, sing it on a tape, write it on a wall, and mail it from Pompeii. Can you hear that? Can you hear that? You'll never know her name. Gonna write it on a letter, gonna send it from Pompeii. Gonna send it from Bombay.
Dernier rêve avant la nuit.
Tous les jours, on se caresse avec des gestes, avec des mots de trop. On se fait des tonnes de politesse, on se dit ça va et on tourne le dos.
Alors tout d'abord, Yumna par Rodolphe Burger et Yumna Saba, rencontre avec la nouvelle scène pop-folk libanaise. Et puis à l'instant, le duo suisse Alios, les mots de trop. Et c'est ça qu'on trouve dans les carnets d'excuses de Steve Ortoli aux éditions du Seuil. On vous propose quelques lettres avec Blaise Angèle et Lolita. On s'est mis à trois pour trouver les mots.
Lettre d'excuse pour rompre sur le ton alpiniste. Blaise, mon amour. Notre histoire a beaucoup compté pour moi, mais quand on a atteint le sommet de la montagne, se profile, hélas, la descente. Tu as été un merveilleux compagnon de cordée. Cependant, si nous continuions, j'aurais peur de dévisser. Je garderai de toi le souvenir de ton sympathique piolet et je te souhaite d'en escalader d'autres.
Sur le ton prophétique, Lolita, mon amour, I had a dream. Je t'ai vu dans 20 ans, œil de zombie, et la panse comme une oriflamme rose flottant dans une brume molle, gloussant de plaisir devant une émission de télé-réalité. Je zappe.
Sur le ton lapidaire. Blaise, tu ne me comprends plus, tu ne me surprends plus, et en prime, tu ne me prends plus. Ou alors très mal. Bref, tu ne m'y reprendras plus. Adieu.
Sur le ton culinaire. Blaise, je ne viendrai pas fêter l'anniversaire de mariage de tes parents. J'imagine déjà ton papa assis dans le canapé jaune, sourire immuable d'évangéliste, et dans ses grands yeux couleur lagune polluée, l'appel au secours silencieux du cocker attendant la mort dans un couloir de la fourrière. Comme à son habitude, ta mère ne le laissera pas en placer une et me demandera si j'ai bien sa recette de goulash à la bière, celle que son fils aime tant. Si tu t'y mettais, tu le ferais mieux que moi avec tout ton talent. Tu noteras au passage ce conditionnel acide dont ta mère maîtrise parfaitement la recette, contrairement à cette immonde ragougnasse qu'elle baptise goulash. Mais glissons. Toi, courageusement, tu auras un faible sourire d'excuse à mon égard. Lolita a beaucoup de travail, tu sais, bien d'autres talents. J'ai du mal à digérer ce « bien d'autres talents ». Mais la vérité, Blaise, c'est que tu n'as pas de couilles. Jusque-là, je m'en arrangeais. Mais à contempler ton père, je me dis que j'ai vraiment pas envie de me transformer en ta mère.
Lettre d'excuse après une dispute sur le ton d'un primatologue. Karine, mon lapin en sucre. Te souviens-tu de ce documentaire sur les bonobos ? Nous avions regardé avec les enfants sur National Geographic Channel. Nature contre culture, tout ça. Eh bien, vois comme c'est intéressant. Le célèbre primatologue Franz de Waal soutient que beaucoup d'animaux sont bien plus malins qu'on croit. En cas de conflit, ils n'oublient pas immédiatement leur faute, mais parviennent à la réconciliation par divers moyens. Par exemple, les chimpanzés s'embrassent. Et les bonobos copulent. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait l'amour maintenant ?
Mon porciné en massepain. C'est marrant que tu me parles des bonobos. Incroyable, hein, comme ces petits cousins poilus nous ressemblent. J'y pensais pas plus tard qu'hier. Savais-tu que les mâles éjaculent en moyenne en une 15 secondes ? Toi qui parviens presque à 2 minutes, tu ferais figure de champion parmi eux. Je ne suis pas persuadée que cela explique pourquoi les femelles bonobos s'accouplent fréquemment avec des mâles différents. Mais c'est un autre fait saillant que j'ai retenu dans ce documentaire et décidé d'appliquer, mais plutôt avec des hommes qui savent se retenir, dans tous les sens du terme.
Sur le ton d'un psychanalysé. Lolita, ange de ma vie, c'est merveilleux. Je vais enfin pouvoir t'aimer librement. J'ai compris le rôle que ma mère a toujours tenu dans mes histoires de cul. Il a fallu que j'en passe par cette liaison qui t'a tant fait souffrir depuis que tu l'as apprise. Mais vois-tu, c'était une étape nécessaire, je m'en rends compte aujourd'hui. Et je peux t'affirmer que l'homme qui a couché avec Amélie, l'ex-nouvelle standardiste, elle ne travaille plus chez nous, j'y ai veillé, n'est pas celui que tu as en face de toi. Soudain me voilà comme l'aveugle qui retrouve la vue, elle paralytique, l'usage de ses membres, sans peur et sans névrose, prête à te donner cet amour que tu mérites tant.
Ben voyons. Ma réponse. Blaise, C'est merveilleux de te savoir enfin libre. C'est vrai que j'ai eu du mal à encaisser lorsque j'ai appris, par ton ami Tom d'ailleurs, que tu te tapais la petite pouffe au gros hémisphère, et je parle pas de son cerveau, qui tenait le standard de ton agence. Mais après tout, 6 mois d'interrogation, et puis de suspicion et enfin de douleur, c'est fort peu de choses au regard de cette excellente nouvelle. Tu ne couches plus avec ta mère. Symboliquement, si j'ai bien compris. Mais à cet égard, tu devrais plutôt la prévenir, elle, je veux dire ta mère, que tu es vraiment libre. En ce qui me concerne, c'est un fait accompli et je dois dire que c'est plutôt plaisant. Sur ce dernier point, je dois reconnaître que Tom s'y est fort bien employé.
Après une dispute, sur le ton d'un biologiste. Karine, amour... Je sais que tu m'en veux terriblement, mais je crois avoir compris l'origine de nos problèmes actuels. Je connais ta méfiance vis-à-vis des explications génétiques. Voici tout de même une nouvelle qui devrait te laisser pantoise. Un chercheur de l'Institut Karolinska de Stockholm a découvert que les hommes porteurs de l'allèle 334 sont plus sujets à l'infidélité que les autres. Je m'interroge, ma douce. Ne devrais-je pas faire un examen? Tu sais comme j'ai horreur de cela, mais pour toi, je le ferai.
Blaise, tu poses l'intéressante question de ce qui reste de la liberté individuelle face au déterminisme des gènes. En gros, t'écoutes que désordonné ne le serait pas, mais résulterait d'une programmation biologique qui t'exonérerait, ou du moins réduirait considérablement tes responsabilités en la matière. Enfin, pas complètement. Puisque tu me demandes, à ta manière un peu tordue, de passer l'éponge. Je crois que tu te trompes sur la nature et l'étendue de ce déterminisme. L'état futur d'un organisme n'est pas prédictible sur la base de sa composition génétique, en l'absence de spécification d'un environnement. Imaginons, par exemple, qu'il y ait un gène, plutôt masculin, de la lâcheté, et que tu en sois porteur. Pour faire bonne mesure, et à titre heuristique, admettons que tu sois également porteur du gène de la médiocrité. Dans une hypothèse déterministe, on pourrait dès lors raisonnablement être assuré que ta destinée serait de commettre des actes médiocres dont tu n'assumerais pas la paternité. Tu vas me dire que c'est incroyable, et précisément l'histoire de ta vie. Je ne te conteste pas le résultat. Je nie, en revanche, qu'il s'agissait de la seule issue possible. Vois-tu, je suis porteuse moi-même du gène de la fille gentille, juste à côté de celui de l'aveuglement. Et pourtant, la pression de l'environnement a joué son rôle. Primo, je te vois comme tu es. Deuxio, j'ai envoyé un message sans équivoque au mari du boudin que tu tapais en douce. Pas déterministe, mais déterminé.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. So emotional. This is not a good look. Gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Oh,
won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay.
Stay with me, Sam Smith et Mary J. Blige. Et puisque nous avons pas mal parlé d'amour ce soir, de voyage aussi, eh ben j'ai envie de terminer avec ce poème de l'auteur suisse Catherine Gaillard-Saron, tiré de son recueil « La terre de l'aimé ». Certains s'en vont au bout du monde, voir si vraiment la terre est ronde. Et ils gravissent avec courage tous les sommets jusqu'aux nuages. Dans tous les sens, ils la parcourent, remontant des fleuves le cours. Mais tu es mon plus beau voyage, mon aventure aux 100 rivages. Car dès que tu m'ouvres les bras, le monde entier s'en vient à moi. D'autres choisissent de rêver dans un grenier, un champ de blé, et ils s'envolent sur leur planète, le cœur heureux et l'âme en fête. Ils la sillonnent sans répit, imaginant 1000 pays. Mais tu es mon plus beau voyage, mon aventure aux 100 rivages, car dès que tu m'ouvres les bras, le monde entier s'en vient à moi. De par le monde, ils s'en vont tous, chercher ailleurs ce qu'ils ont tous. Mais sur tes traits mûris par l'âge, du monde je vois les visages. Et sur les ailes de ton amour, je voyage un peu tous les jours.
Fly me to the moon, let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Et ben voilà, il est temps de fermer nos livres. À la réalisation, c'était Samuel Morier-Genoux. Et puis pour le choix des chansons, Yves Ellen. Nous avons un répondeur qui reçoit volontiers vos propositions de lecture au 058 236 11 22. La ligne de cœur, ben c'est juste après les informations. Vous avez rendez-vous avec Jean-Marc Richard. Belle fin de soirée sur la première. Il est 22h.